J'avais environ 11 ans, 12 ans, quand j'ai posé la question à mes parents, quand est-ce que nous sommes devenus chrétiens? Eux, ils m'ont répondu que leurs grands-parents étaient des hindous et ils s'étaient convertis vers le christianisme. Et donc, ils ne savaient pas exactement la motivation de cette conversion, vraiment conversion. Et donc, j'ai grandi dans une famille où il y avait 6 enfants. 3 filles, 3 garçons. Et donc nous sommes souvent 8 personnes à la maison. Tous les dimanches, on allait à la messe. Mon père allait même en semaine. Une phrase qu'il m'a dite une fois est ancrée dans ma mémoire, car il disait beaucoup tamoul et anglais. Il disait qu'il avait lu quelque part dans un livre spirituel si quelqu'un reçoit Jésus dans la communion, même une fois, avec tout l'amour qu'il faut, elle devient saint. Ça m'a frappé beaucoup. Mon père travaillait dans les bureaux de chemin de fer et plus tard dans une banque. Ma mère ne lisait que tamoul. Tous les soirs, nous avons des prières en famille. Ma mère avait toujours la tendance d'ajouter des prières. Parce que tel père disait tel saint et tel sainte. Donc, mon plus grand frère et moi, nous étions contre cette prolongation. Et nous sommes devenus prêtres, tandis que les frères qui ne respectaient pas se mariaient. Mes trois sœurs, deux sont religieuses, une sœur est nonagénaire maintenant, et puis deux autres sœurs octogénaires, mon monsieur octogénaire, et puis une sœur et grand-mère. Quand je retourne en Inde, tous les 2 ans, les gens me disent, vous allez voir votre famille. Une famille, il y a 3 sœurs, je regarde les 2 sœurs religieuses, une sœur mariée, et puis elle est veuve, donc je la vois, et puis on mange. Mais spécialement pour causer avec les jésuites, les prêtres, je vais en Inde. À 8 ans, quand j'avais 8 ans, il y avait un événement, petit événement peut-être, qui me touchait beaucoup. Et donc, on allait de Madras, sud-est de l'Inde, à Goa, presque 1000 km, dans le train. C'est un long voyage. Hein? Et donc, parce que mon père, parce qu'il travaillait au chemin de fer, nous avons, n'est-ce pas, facilité d'y aller. Il y avait le corps de Saint François Xavier. François Xavier était le grand disciple de Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus. Et donc, Saint François Xavier, quand il était au Japon, les Japonais lui posaient la question pour savoir si les Chinois étaient des chrétiens. Il disait à sa connaissance, non, Chinois ne sont pas chrétiens. Si les Chinois ne sont pas des chrétiens, pourquoi nous devons devenir chrétiens? Tant était l'estime que portaient les Japonais envers les Chinois. Et donc tout de suite, Saint François Xavier se disait, ouais, je dois aller convertir la Chine. Donc il est arrivé, il était là devant le territoire chinois, encore 2-3 kilomètres de bord, mais aucun navigateur n'osait prendre François Xavier dans le territoire parce que l'empereur avait interdit les arrivées de tous les étrangers. Donc il mourait. Quand on dit, on raconte, peut-être ça doit être vrai, son corps devait être porté en Europe. Mais on dit, quand il arrivait vers le Golfe, comme ça, il se tournait toujours vers l'Inde. Donc, on se disait peut-être la volonté de Dieu qu'il doit être en Inde. Donc, effectivement, son corps a été à Goa, a été toujours. Ce corps était exposé, c'est intact. Il n'y a pas de souci, intact. Et donc, ce corps était mis il y a 80 ans, quand j'étais 8 ans. Donc, on arrive, c'était sur une table. Était exposé, corps, simplement, sans des verres. Et puis chacun devait venir monter sur un tabouret, et puis un prêtre mettait un peu de mouchoir, et puis donnait un baiser. Quand je suis monté, le prêtre était distrait. Et donc j'ai touché. Le prêtre m'a grondé. Mais je crois que la vocation de devenir jésuite est arrivée. En tout cas, cette vocation devait être confirmée de façon ou d'autre. À l'âge de 15 ans, j'ai lisé en tamoul la vie de Saint Jean-Marie Vianney. On appelle curé d'Ars parce qu'il était tellement fameux comme le curé d'Ars, son nom devient même curé d'Ars. Donc dans cette biographie, il y a une page qui m'a touché, une page où, pas la parole de saint, mais la réponse d'un paysan qui tous les jours venait après son travail être simplement assis dans cette église villageoise et puis il regardait comme ça. Et puis un jour, le curé d'Ars, un peu curieux, demande, « Monsieur, excusez-moi, vous venez tous les jours, vous ne récitez pas le chapelet, vous ne lisez pas des prières. Monsieur l'abbé, je ne connais pas lire. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je fais? Je le regarde, je l'avise, il m'avise. » C'était la parole de ce paysan. C'est là qui m'a touché beaucoup, la parole de ce paysan. Donc il dit, il y a une manière d'aviser, regarder. Qu'est-ce que ça, on ne peut pas regarder vraiment physiquement, mais il y a une manière de regarder. Donc je me suis dit, tous les jours, je dois aller comme le paysan. Mais une demi-heure, c'est un peu trop pour un garçon de 15 ans. Donc je me suis dit, tous les jours, au moins 10 minutes, même 5 minutes, mais tous les jours, sans rien dire, sans rester le chapelet. Simplement être là, regarder. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai reçu ce qu'on appelle la vocation, l'appel. Ce n'était pas une voix mystérieuse, extraordinaire, mais un désir extraordinaire que je dois devenir, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, comme François Xavier, ça. Donc je suis entré à l'âge de 18 ans au noviciat. Et noviciat, cela veut dire un temps de probation avant qu'on devienne vraiment un religieux. L'atmosphère dans la famille m'a très bien préparé, je crois, parce qu'il y avait l'écoute et le partage. Et puis, ce que je lis maintenant dans l'écriture de Saint Paul, parents, n'exaspérez pas vos enfants. Et donc, c'était très réalisé dans ma famille. Et quand nous exprimions nos idées différentes de papa, de père ou mère, et ni mon père ni ma mère nous disaient qu'on était impertinents. Donc on acceptait une espèce de discussion. On lisait des revues, même en anglais, parce qu'il y avait un père qui passait les revues qu'il lisait. Et même à ce moment, il y avait cette ouverture que j'apprécie beaucoup. Et par exemple, les Jeux Olympiques, dans l'année 1936, je me rappelle très bien, on discutait sur les Jeux Olympiques. Hitler, Adolf Hitler, refusait de serrer la main à Jesse Owens, qui avait gagné 4 médailles en or. Donc, ça, c'était comme ça. Et puis, donc, la question du racisme, quelque chose comme ça. On pensait à quelques restaurants en Inde où il y avait une affiche board, uniquement les blancs, only the whites. Nous ne pouvions pas entrer dans les restaurants. Jawaharlal Nehru remarque cela dans son autobiographie, comment on était humiliés. En ce qui concerne l'église, on parlait dans la maison, on riait des manies des prêtres, des religieuses, sans pour autant mettre en cause la voix de l'Église. Donc on était fidèles, mais on acceptait qu'il y avait tant de faiblesses à l'intérieur de l'Église. Et donc, 18 ans, j'entre 1800 mètres d'altitude de la maison de formation à cette époque. Il demandait beaucoup d'efforts. Pour la première fois, je mettais des chaussettes, des chaussures, hein. Première fois, je commence à parler l'anglais. Première fois, je vois le fromage, parce qu'il y avait les pères français, encore beaucoup de pères français. Donc, je regarde le fromage, je dis, Qu'est-ce que ça, cette affaire-là? C'est jaune, solide, c'est pareil comme un savon. Comment manger cela? Je me suis dit, extraordinaire. Après tout, on disait, il faut couper avec le pain, le porc, appétit viendra en mangeant. Donc, venez. Et donc, dans le noviciat, il fallait d'abord faire un mois de retraite, silence, un mois. Heureusement, coupé par 3 jours, on peut parler. Mais autrement, 30 jours, qu'est-ce que c'est que retraite spirituelle? On voulait être plongé hein, dans le mystère de Dieu, le mystère de Christ. Et donc, il y avait une méditation, réflexion que Saint Ignace proposait, qui m'a touché, qui reste toujours dans mon cœur. Comment Dieu, les trois personnes divines, regardent cet immense espace immense de la terre, où il y a des personnes de toutes les races qui habitent, et puis les misères spirituelles, et comment une de ces trois personnes doit se faire homme. Comment tu dis? Ce panorama de voir. Donc, formation, à 20 ans, 2 ans plus tard, je prononce ce qu'on appelle les vœux. Un vœu est une promesse solennelle. Et donc, celui qui veut devenir vraiment jésuite, ça arrive dans les différentes congrégations, on doit s'agenouiller devant le Saint-Sacrement Eucharistie pendant la messe et puis prononcer les 3 vœux, pauvreté, chasteté, obéissance. Après, on devient vraiment jésuite. Mais commence une longue préparation chez les jésuites, 200 d'anglais et tamoul, et latin et grec. 300 de philosophie en latin, Aristote, Kant, Hegel, Descartes. Puis 300 enseignements au collège, un peu de science, de l'anglais. Après 10 ans de formation jésuite en Inde, j'ai fait 300 de jésuite formation à Rome, France, Belgique. Et donc j'ai été ordonné prêtre à 31 ans, 13 ans après d'être entré comme novice. Et puis je vis en Inde. À 44 ans en Inde, quand j'étais comme jésuite, plusieurs choses, enseignement, responsable des autres jésuites, etc. À 44 ans, dans l'année 1968, avec 3 amis, nous avons fondé le groupe de dialogue interreligieux. Ici, 30 ans plus tard, nous sommes. Donc, le petit-fils de Mahatma Gandhi, Rajmohan Gandhi, je crois qu'il est toujours professeur dans une grande université en Amérique. Il est venu une fois rencontrer le groupe de dialogue interreligieux parce qu'il avait été le représentant des hindous à Assise dans l'année 1986. Et donc, il nous a raconté une chose délicieuse. Quand le pape était arrivé à Delhi, 1986, février, il était parmi les personnes qui accueillaient 60-80 personnes. Donc, ce monsieur Rajmohan Gandhi nous disait, il voulait dire quelque chose de spécial au pape, pas simplement bienvenu. Et il disait, nous sommes heureux que vous soyez venus, je prie pour votre pays, Pologne. Et puis, celui-là était, enfin, le mois d'octobre, à Assise. Le pape s'était souvenu de ce qu'il avait dit, et en accueillant les personnes originaires, c'est, oui, je me rappelle, vous avez dit, vous priez pour mon pays, merci. Donc, je recommence. C'était touchant. Et donc, après avoir travaillé un peu en Inde, quand j'avais déjà 63 ans, je rends visite à mon supérieur, trop responsable du jésuite, qui était malade, donc j'entre. Et puis quand je suis entré dans cette chambre à l'hôpital, je n'avais aucune intention d'une mission, aller en dehors de l'Inde, ni pour, ni contre. Mais il m'a posé la question au cours de la conversation. Je lui ai dit, oui, d'accord, où est-ce que je vais aller? Il dit, en Afrique, d'accord, quel pays? Il a dit, Zambie. D'accord, j'y vais. Donc, je suis allé en Zambie. Et après presque 3 ans, je reçois un courrier de père jésuite de Paris en charge de la mission ici. Il m'envoie un courrier pour dire, nous connaissons, vous êtes à Zambie, il est très facile de trouver un prêtre indien qui parle l'anglais, mais peut-être difficile de trouver un prêtre qui peut parler un peu de français, puisque tu connais un peu de français. Est-ce que tu peux venir ici pour aider les personnes d'origine indienne qui mélangent deux religions, pour les aider comment trouver son chemin, hein, après réflexion, prière, etc. C'est pourquoi je suis arrivé ici. Et donc, quand je suis entré dans la compagnie de Jésus, à 18 ans, je lisais quelque chose qui m'a touché aussi. Sans des amis, tu ne peux pas être heureux. Et si Jésus n'est pas ton plus grand ami, le bonheur te manquera. Ça m'a frappé beaucoup. Et donc, combien d'amis? Il paraît qu'un grand sage français, octogénaire, quand il lui a posé la question « Combien d'amis avez-vous dans votre vie ?» Il réfléchissait, il disait « Je crois 2 ». Et c'est un nombre prodigieux. C'est-à-dire la difficulté de trouver vraiment. Parce que l'amitié a différentes couleurs. Et donc, similarité des idées politiques, culturelles, artistiques, etc. etc. Et donc, cette amitié qui vous amène à l'amour. Et donc, quand je prononçais le vœu de chasteté, n'est-ce pas, à l'âge de 20 ans, en Inde, dans l'année 1934, et donc, les relations entre les jeunes gens et jeunes filles en Inde, même maintenant, ne sont pas très poussées. Et donc, à cette époque, presque rien. Et qu'est-ce que je disais quand je disais « je pratique de chasteté » Et donc, j'avoue que ce n'est que vers l'âge de 30 ans, j'ai éprouvé vraiment, vraiment ce que c'est qu'une femme, amour, affection d'une femme. Ça arrive très tard. Et donc, pourtant, quand on éprouve cela, on se pose la question « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai offert quelque chose à Dieu, une chose très précieuse. Donc, est-ce que je vis fidélité en fidélité avec tout ce que j'ai promis à Dieu? Ou bien je romps? Donc, une question très vitale. Il y a des personnes de différents niveaux avec lesquels le prêtre a à faire beaucoup de choses. Et donc, il y a une attraction à une célibataire, à une femme mariée, à une religieuse. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rompt tout de suite? Ou bien il y a une manière de voir tout ce qu'il y a de beau dans cette amitié, dans cet amour, pour faire évoluer, n'est-ce pas, soi-même et l'autre personne? C'est ce que j'ai tâché de faire. Dans ma vie, mon vie, plusieurs personnes. Et surtout, je me rappelle une chose très, très personnelle, évidemment. Une femme américaine, parce que j'ai été pendant 2 ans à Chicago, et j'ai enseigné, j'ai pris un master. Une femme américaine, catholique, mariée, qui montrait beaucoup de affection, amour. Et elle lisait la lecture, la Bible, et surtout le père Teilhard de Chardin, un jésuite, penseur, poète, etc. Donc, il était au courant de tout cela. Donc, il y avait une amitié. Un jour, il m'invita chez elle. Je lui ai dit, non, je ne viens pas, mais ton mari doit m'inviter. Donc, je reviens. Donc, il m'envoie une chose avec mon bourgeois de mari, avec une petite note. Voici l'invitation de mon mari pour répondre à tes sensibilités indiennes. Et donc, je suis en lien, email avec cette dame après 37 ans. Pas très souvent, 3-4 fois par an. Les anniversaires, Noël, Pâques, notre pays. Ça, elle me raconte des choses de ses petits-enfants, etc. Mais il ne faut pas briser les choses, il faut construire quelque chose dans notre vie tout en acceptant, donc il veut du célibat, l'être humain est programmé pour aimer. Par le vœu de chasteté et célibat, on n'est pas libéré de l'amour, mais on est libéré pour l'amour, d'une autre façon. C'est là vraiment la vocation dans le religieux, d'une religieuse, parce que Dieu est amour et le premier commandement est aimer. Et comment est-ce qu'on peut ne pas aimer? Donc, c'est là qui. C'est pourquoi les personnes comme Mère Teresa et tant de milliers de religieuses, des hommes qui ont vécu depuis ces 2000 ans, il y a pourtant un grand sacrifice. On accepte, et je me rappelle un psychologue à l'université à Chicago, il mettait les choses très très bien. Lui, il disait qu'il était un protestant, qu'il n'avait jamais connu les catholiques, pas les prêtres. Il se posait la question toujours, comment ces personnes-là, n'ayant pas, n'étant pas mariées, comment est-ce qu'ils peuvent être vraiment des personnes humaines? Donc il dit, il arrive à l'Université Loyola de Chicago, et puis après il a vécu dans 2 ans, il nous disait en classe, moi après réflexion j'arrive à ceci, le plus grand sacrifice qu'un religieux, une religieuse, un prêtre fait, c'est de ne pas vouloir être numéro un pour une autre personne dans la vie. Très bien fait. Hein? C'est-à-dire, le prêtre religieux peut être numéro 2 pour plusieurs personnes. Mais il n'est pas numéro 1 pour une autre personne. Seulement dans le mariage, n'est-ce pas, on peut être numéro 1 à l'autre personne. C'est très bien fait. On apprécie beaucoup. Hein? Et puis, ce chasteté ou bien célibat aide beaucoup les personnes pour être plus libres, pour rencontrer des personnes très pauvres. Et moi, j'ai quelques expériences avec des personnes très, très pauvres à Madras. Par exemple, je suis allé dans une maison où la femme, la mère, qui l'homme avait quitté, elle faisait du travail comme un coulis. Porter des choses là. Elle avait 3 filles. Et donc, je vais dans cette maison. Et puis, je mange avec eux, comme ça. Et puis, il n'y avait pas de chaise dans la maison, on avait le sol. Un jour, j'étais très fatigué. Et puis, il y avait un tabouret. Donc, j'assois sur le tabouret. Le grand fille me dit, mon père, asseyez-vous avec nous, on se mange. Je me suis assis comme ça. Et comment on peut donner beaucoup d'amour parce que autrement il y aura certainement des difficultés pour laisser la famille. Il y aura des personnes, pourquoi nous laisser toujours partir comme ça? Il y avait la possibilité. Je parle beaucoup, mais la prière, qu'est-ce que j'ai trouvé comme la prière? Les mots clés, la prière, et rencontre, présence, union, contemplation, abandon de soi-même. Et pour nous chrétiens, c'est la prière de Jésus avant d'aller quitter sa mission, terminer sa mission. Chapitre 17, selon Saint Jean, évangile selon Saint Jean. Et puis quand Jésus dit, j'ai accompli ma mission d'amour, je viens à toi. Et donc, au-delà de toutes les demandes qu'on puisse faire dans la prière, nous pouvons faire des demandes, certainement. Mais comment arriver à saisir la profondeur de la prière, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. La prière de Jésus extraordinaire et manque. Mais je suis inspiré aussi par les chants tamoul. Par exemple, je récite de temps en temps en tamoul, prière tamoul. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, je veux te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, au fond de mon cœur, je veux ce que tu veux au fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi, dans le fond de mon cœur, je t'adore avec amour dans le fond de mon cœur. Et aussi quelques phrases en théologie hindoue. Ceux qui disent que l'amour et Shiva sont deux choses différentes sont des ignorants. Pour dire que Dieu est amour, il n'y a pas deux choses. Donc on est nourri par des choses. Mais on avait aussi des difficultés avec notre formation parce que en Inde, Kant, Hegel, Descartes, qu'est-ce que cela veut dire, hein? Il y avait pour nous une européanisation de la formation des jeunes personnes indiennes, chinoises, japonaises, comme ça. C'est triste. Hein? Pendant des tant d'années, il fallait savoir maîtriser le latin pour pouvoir être ordonné. Il y a tant de milliers et des milliers de personnes dans les différents pays africains aussi qui n'arrivaient pas. Et donc, on était écartés. Mais c'était triste. Et donc, on acceptait cette église, pourquoi elle a tenu à tout cela. Il y avait de grandes questions, évidemment, de qui était dans notre cœur, des questions philosophiques, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Et qui est Dieu? Est-ce que Dieu peut ne pas être? Est-ce que moi, toi, peux ne pas être? Qu'est-ce que c'est, on dit, être nécessaire? Et qu'est-ce qu'on dit, être contingent? Pas contingent de troupes, mais c'est-à-dire d'être ou ne pas être. Donc, toutes ces questions, un peu en philosophie, en théologie, et donc il était là. Et puis les questions sur la Bible, beaucoup, je pense. Et pourquoi Dieu devait-il choisir un peuple comme son peuple? Et pourquoi choisir les Juifs? Pourquoi pas, à cette époque, les trois pays peut-être très évolués culturellement, la Chine, l'Inde, l'Égypte. Et donc, pourquoi n'a pas choisi parmi ce pays? Pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Nous essayons de trouver le dessein de Dieu dans son choix de ce petit peuple juif et à travers. Et puis il y a tant de choses qu'on ne peut pas accepter en Bible. Il y a tant de meurtres, incestes, mensonges, tout cela. Qu'est-ce que c'est la Sainte Bible? Et comment prendre la Bible? Donc il y a plusieurs questions qui restent. On n'a pas résolu, on ne peut pas donner une réponse très définitive, très claire pour tout cela. Et en Inde, il y a eu deux jésuites italiens, Roberto Di Nobili et Beschi, qui ont travaillé beaucoup la langue tamoul. Donc Roberto Di Nobili a appris sanskrit, tamoul, tamoul. À cette époque, il a écrit, on les tamoul donné à ses pères toujours un titre en tamoul, Tattva Bodhagar, enseignant de philosophie. Au XVIIIe siècle, son confrère italien également, jésuite, il a écrit toute une épopée en tamoul. Maintenant, une partie de cette épopée est présentée pour les étudiants en l'université. Pour le comprendre, moi j'ai besoin de beaucoup de dictionnaires. Hein, parce qu'il y a des mots, n'est-ce pas, c'est comme ça. Donc, Église et le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Et aussi, j'ai essayé, une fois ou l'autre, de faire quelque chose dans la vie sociale. Et j'ai édité un mensuel en tamoul sur la justice sociale. Mais ça a duré simplement 6 ans, 7 ans. Et nous ne réussissions pas parce qu'on n'avait pas mis d'abord assez d'argent, tout cela, donc c'est mort. Mais là, j'ai fait une espèce d'essai. Donc, itinéraire spirituel, c'est plutôt et en voyage avec quelqu'un, pas simplement abstrait, itinéraire spirituel. Et donc, depuis que j'ai connu Jésus, à ma manière, à l'âge de 7 ans, lors de la première communion, une connaissance et un amour qui me donnent de la joie, cet amour a grandi. Depuis mon entrée dans la maison de formation des jésuites, il y a 70 ans, pour devenir un jésuite, un compagnon de Jésus, un titre, non pas pris dans un esprit d'une gloriole, mais tout humblement, un titre que toute personne attirée par lui peut prendre. Et puis, depuis mon ordination comme prêtre, la grâce de partager cette amitié de Jésus avec tant de personnes ici depuis 22 ans, et puis de pouvoir écouter les personnes et, je dirais, essuyer les larmes des autres, tout en sachant que Dieu seul peut essuyer toutes les larmes de tous les yeux, se joindre aux autres dans leur sentier en espérant les mener dans le chemin qu'est le Christ, marcher avec les autres dans l'obscurité de la vie, sûr qu'au bout du tunnel c'est la lumière, le Christ, ressentir la douleur et les doutes qui rongent les esprits, tout en essayant de leur indiquer la vérité qu'est le Christ, partager le deuil des autres pour leur faire connaître Jésus, la vie de joie qui nous attend sur l'autre rive, écouter l'histoire douloureuse de l'humanité, se sentir humble devant les fardeaux que portent tant de frères et sœurs, mais leur dire une parole d'espérance, diriger la piété envers Marie, les saints et les saintes, en creusant le sens de nos blessures durant notre pèlerinage, qui va aboutir dans la communion de l'amour, après quelques rencontres bouleversantes, rester assis, ému, même perturbé, mais pas fatigué, de son ministère de compassion fraternelle. Voici en quelques personnes, en chaque personne, l'image de Christ, parfois rayonnante, parfois ternie, mais à restaurer à l'aide de la grâce. Le défi est grand, grande les grâces qui soutiennent nous les prêtres. Et pour terminer maintenant, ma mère m'avait enseigné une petite prière quand j'avais 7 ans, 8 ans. J'ai récité cette prière tous les jours. Et quand j'étais malade, surtout malade il y a 3 ans, je croyais que j'allais mourir, mais vous voyez, n'est pas moi encore. Donc, j'ai pensé à cette prière, je récitais, et les personnes qui voulaient me consoler, je disais cette prière. Plusieurs personnes m'ont demandé d'écrire cette prière pour moi. Donc, Seigneur Dieu, quel que soit le genre de la mort que tu as destiné pour moi, je l'accueille avec sa tristesse et ses souffrances. Je la reçois de tes mains dans un esprit de sérénité et de toute ma volonté. Cette prière, à l'âge de 7 ans, je l'ai récitée tous les jours pendant 80 ans. Maintenant, j'y ajoute une autre petite prière, un peu d'humour si vous voulez. Mon Seigneur Dieu, ne sois pas pressé de m'appeler à la vie éternelle. Après tout, tu mourras pour toute éternité.